Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Olivier Loub et j'ai travaillé sur l'école et la patrie dans les années, des années 10 aux années 40 en France, l'école primaire essentiellement. Ce lundi matin, en lisant Midi Olympique, j'ai rencontré sous la plume de Jacques Verdier dans son éditorial qui est intitulé « L'exception française qui ferait plaisir à Laurent Wirth », parce que c'est le titre d'un de ses livres dans une petite collection dans laquelle s'est illustré aussi Benoît Falaise. Une tentative d'explication de la victoire sur les All Blacks, et en l'absence de rationalité rugbystique, il se rabat sur, je le cite, les manuels scolaires et l'histoire patriotique. Je le cite encore, on devrait pourtant en avoir l'habitude. La France n'est jamais aussi forte que lorsqu'on la croit démunie, exsangue, et qu'elle suscite alentour la commisération. Reprenez vos manuels d'histoire, les exemples ici abondent, ils échappent presque toujours à l'entendement. On croirait du Lavis après 1870 ou peut-être après 1914, on va le voir. Reprenons effectivement les manuels et tâchons d'y appliquer notre entendement. Ce qui donne leur cohérence souvent à ces manuels républicains, c'est pas une suite grenue d'exemples divers, mais la cohérence, la concordance de temps qu'ils organisent dans un récit pour lequel les élèves et les maîtres, et dans lequel les élèves et les maîtres peuvent se projeter, et dans lequel ils s'identifient. C'est ça qui fait la force du roman historique proposé à cette époque-là dans l'école républicaine. Et en particulier pour les élèves, et c'est pour ça que parler de roman, j'ai beaucoup aimé le thème général, générique de notre réunion. Pour les élèves, il leur est souvent enjoint d'être les héros de ce roman. Et ce qui fait fonctionner, en grande partie, le roman des manuels scolaires, c'est que les élèves en sont les héros, ou peuvent en devenir les héros, et que du coup, ces récits, ces images qui sont surtout pas à analyser effectivement, hein, l'objectif des petits Lavis, c'est pas du tout de proposer une étude de documents sur les images, mais bien de s'approprier, de rentrer dans l'image. L'objectif est que l'élève devienne le chevalier qui prie la veille de son adoubement, etc., etc. Transforme dans ce cas-là celui qui écrit le manuel, qui le conçoit, le projette dans une figure de grand-père qui raconte une histoire. Et Lavis l'a complètement assumé. Sur la première page de ses manuels des années 1910, il dit « Je raconte des histoires comme un grand-père les raconte à ses petits-enfants ». Et la formule, d'ailleurs, est dans l'énonciation, ça devient un passage par le « tu » et pas par le « vous ». Hein. Il s'agit de raconter et de conter. Il est d'ailleurs présenté sous un arbre, on peut espérer qu'il s'agit d'un chêne, mais la justice distributive du roman, on va le voir, répond parfois à d'autres logiques. Ces logiques, depuis 1962 et l'article pionnier de Pierre Nora, font que nul n'est censé ignorer le rôle d'Ernest Lavis dans la formation du mouvement national et plus tard dans les lieux de mémoire, dans la figure de l'instituteur national. Tous les historiens de la génération Nora, Ozouf, dont il a été question en ont fait à juste titre, je crois, l'idéal type de l'auteur du roman national français et républicain. Et il le mérite à plusieurs titres, Ernest Lavis. Il est à la fois directeur de l'histoire de France, qui est la somme positiviste, méthodique, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il est le rédacteur d'articles pour le dictionnaire de pédagogie Buisson en 87. Il est bien entendu un fils naturel de Duruy, et fils de ses œuvres aussi. Il est auteur de discours repris et commentés dans le champ pédagogique et politique. Par exemple, celui qu'il adresse comme un grand-père, là encore, aux écoliers de Nouvion en Tirache, dont il est issu et qu'il va régulièrement visiter en 1903, 4, 5, 6. Et à chaque fois, ce sont des leçons destinées à l'ensemble de la population. Au fond, il parle aux écoliers français depuis Nouvion en Tirache. Et surtout ici, comme auteur de la Bible scolaire à l'usage des élèves du primaire que furent les petits Lavis. Publié chez Collin, l'histoire de ces manuels est une histoire longue. Elle survit largement à leur auteur. Lavis meurt en 1922 et on trouve encore en 1945 un petit Lavis avec un chapitre à ajouter sur la Seconde Guerre mondiale. Donc une histoire longue qui permet de travailler de façon sérielle. Et cette production de textes rythmés, c'est aussi un succès d'édition et de notoriété. Pour la notoriété, on l'a vu, les historiens ne s'y trompent pas, parce que Lavis a été un pilier de la Troisième République historienne et que ses manuels ont marqué des générations. Et ce qui permet de le signaler, c'est qu'ils ont été la cible des débats de congrès d'instituteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et la cible majeure, c'est bien les petits Lavis. Ce qu'il s'agit d'expurger dans les années 20, ce sont les petits Lavis. Les autres aussi, mais à un degré moindre, parce que le personnage est emblématique, évidemment. Même si pour la diffusion, Là, ce sont les études les plus récentes qui le montrent. Le petit Lavis, c'est pas ni seul au monde, ni forcément souverain. Hein, y a d'autres manuels qui existent et qui sont, on parlait des pratiques, largement aussi diffusés et selon les régions. En fait, on a une marqueterie ou une de la diffusion des manuels. Par exemple, pour avant 14, le cours de Désiré Blanchet chez Belin est extrêmement populaire. Et après 1918, les manuels certainement les plus vendus sont de la maison Hachette, c'est pas encore la dictature de Hatier. Et c'est Gauthier Deschamps hein, qui en sont les auteurs. Mais même si cette diffusion peut être remise en cause en partie, la valeur de référence, elle, ne fait aucun doute. Elle se renforce grâce à la durée de la parution. On est bien en présence d'une série chronologique considérable qui court de fait toute la Troisième République. Or, ces manuels ont été très bien étudiés pour la période avant 14, très peu étudiés pour la période qui suit. Si vous voulez, il me semble que, à l'occasion donc de cette intervention, il est bon d'essayer de sortir d'un certain fixisme quand on examine l'histoire de enseigner de la Troisième République. Souvent, on voit ces périodes de base de fondation et après, un petit peu comme si la Grande Guerre avait simplement servi de révélateur ou de catalyseur des choses existant auparavant, n'ayant pas changé grand-chose. C'est pas très très juste, je trouve, et je vais donc les prendre comme roman national, mais aussi comme feuilleton national, essayer de voir les générations de ces petits Lavis pour voir ce qui change hein, au fur et à mesure de leur parution. Il y a des générations de petits Lavis, et le plus pertinent aussi, il m'a semblé, pour identifier ces générations, c'était pas de s'attacher au roman des origines dans le roman national. Celui-ci est bien connu, les travaux de Suzanne Citron en particulier d'ailleurs, toute cette mise en place de leçons matricielles, hein, qui sont les leçons sur la Gaule, les Gaulois, Vercingétorix, etc., ont été bien étudiées. En revanche, je crois qu'il faut s'intéresser à la fin de l'histoire. Quand on lit un roman, des fois on le prend par la fin, on n'a pas complètement tort. En tout cas, Daniel Pénac, ça fait longtemps qu'il nous a donné raison de prendre un livre par où on le souhaite. Mais pour nous, c'est extrêmement important, pour nous historiens, on parlait de finalité, de s'intéresser à la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, elle est modifiée sans cesse. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la Troisième République, il s'agit bien d'enseigner une histoire jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Et c'est en ce sens-là que la finalité civique se résout dans le roman historique. Et ce jusqu'à nos jours fait que la fin des manuels change. Et change, j'allais dire, sans arrêt. J'ai repéré 6 générations, par exemple, hein, dans les petits Lavis. On verra qu'il y a 2 âges et 6 générations. Mais ce qui était intéressant dans ces dernières pages, c'est que la chute de l'histoire en donne aussi sa fin. L'écriture d'un livre d'histoire pour les élèves, c'est une téléologie. C'est volontairement amener à partir du passé des élèves à s'inscrire dans un présent, et un présent qui a sa fin, et j'allais dire que sa fin donne ses fins et que la théologie est une théologie hein, de l'enseignement dans ces cas-là. Dernière malgré tout remarque, tenant les manuels, nous ne tournons pas forcément l'enseignement. Ça, il faut le dire, le répéter, y insister. C'est pas moi, en particulier, j'ai énormément travaillé sur les productions scolaires, donc je vais surtout pas vous dire que je tiens. Mais tenant les manuels, on tient quand même le roman national. Ça, c'est autre chose. La façon dont il est diffusé et dont il est incorporé nécessite bien d'autres études. Hein. Certains qu'à l'époque, en tout cas, s'intéresser donc aux fins de ce roman permet de sortir de la réputation d'immobilisme de la foi dans la patrie et du culte patriotique à l'école. Parce que moi, ce que j'ai repéré, ce sont des changements, plutôt un changement central qui se produit autour de la Première Guerre mondiale. Et si je repère 6 générations, on va le voir, je dégage 2 temps ou 2 âges. Il y a un premier âge qu'on pourrait appeler l'âge cohérent du roman patriotique enchanté. L'âge cohérent du roman patriotique enchanté. C'est le conte de fées, FAITS, hein, qui fonctionne et qui organise les 3 temps, passé, présent, futur. Prenons la première édition en 1884. Les programmes sont de 82 et Lavis rédige en 84 une version. Il n'est pas le seul à le faire. Toute une génération d'auteurs et de directeurs apparaissent à cette époque-là, mais ça va être lui qui va incarner vraiment le meilleur succès. Ça, c'est vrai, le Lavis de 84 est un succès considérable. La renommée de l'auteur, la façon qu'il a justement de raconter et d'installer en récit cette histoire de la nation qui s'achève en République est quelque chose qui fonctionne remarquablement bien. Mieux, et en plus il le fait de façon paternelle, et ça va mieux fonctionner qu'un autre livre que je vous signale, pour mémoire et peut-être pour travail, pour ceux qui voudraient lancer des travaux d'études. C'est un livre qui présente une histoire maternelle de l'histoire de France, et ça c'est pas évident. C'est Pauline Kergomar qui en 82-83 rédige hein, elle-même une histoire de France aux petits-enfants, et qui, vous le verrez si vous le retrouvez, produit un ton qui est un ton très différent, un ton justement maternel. Mais ce qui marche dans une société patriarcale, c'est une histoire paternelle. C'est assez cohérent quand même ça aussi pour écrire et dire un roman national. Ici, en 1884, je n'insisterai pas, Pierre Nora, enfin tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus, la cohésion se fait, c'est une version vengeresse du patriotisme qui est proposée, incontestablement. Dans la dernière page, je vais m'occuper des dernières pages, pas des dernières leçons, mais des dernières pages à chaque fois, le mot de venger ou vengeance revient 4 fois. Voilà, c'est aussi clair que ça. C'est aussi simple que ça. Une tension repérable dans tous les écrits de la vie, c'est des autres manuels de cette génération, elle est bien connue. Elle se reflète aussi dans l'article « Histoire du dictionnaire pédagogique » de 1887, qui est rédigé par Lavis, et dans lequel il dit « Si l'écolier ne devient pas un citoyen pénétré de ses devoirs et un soldat qui aime son drapeau, l'instituteur aura perdu son temps. » Le roman national, c'est l'inverse de la perte du temps. Hein, c'est la mise en cohérence du temps, au contraire. L'instituteur perd son temps s'il ne voit pas que le temps de la revanche conduit au temps de la formation du soldat citoyen. Mais il est d'abord soldat avant d'être citoyen. On pourrait citer beaucoup de choses de cette dernière page. J'en retiens une parce qu'elle est toujours intéressante à voir. C'est la façon dont s'incarne dans des chiffres des lieux communs. Ici, c'est le chiffre de 1500 000. On le retrouvera à la fin de la Première Guerre mondiale pour le nombre de morts. Ici, 1500, et sous la plume de Lavis, ici, 1500 000 hommes, ce sont ceux qui habitaient nos départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui étaient de bons Français, et qui ont été obligés de devenir Allemands. L'histoire de France, c'est presque du Verdier, montre que dans notre pays, les fils ont toujours vengé les désastres de leur père. Les Français du temps de Charles VII ont vengé leur père vaincu à Crécy, à Poitiers, à Azincourt. Les Français du temps de la Révolution ont vengé leur père des désastres et des humiliations subies au temps de Louis XV. C'est à vous, enfants élevés aujourd'hui dans nos écoles, qu'il appartient de venger vos pères vaincus à Sedan et à Metz. C'est votre devoir, le grand devoir de votre vie. Vous y devez y penser toujours, et quand vous aurez 20 ans, et que vous serez sous les armes, être de bons soldats, obéissant bien à vos chefs, fermes et braves sur le champ de bataille. Dès les années 1890, cette version est quand même modifiée. L'enchantement patriotique demeure incontestable. L'histoire de France aboutit en république, et une république qui est le phare de l'humanité, mais il faut vraiment. Et c'est dans les années 90 que ça s'installe de façon encore plus cohérente. Et donc, ce que Wittgenstein appelle l'ensorcellement hein, subsiste hein, dans l'enseignement de cette époque-là. Avec comme changement, c'est que la vengeance disparaît du roman, de façon explicite, en tout cas. L'écolier patriote n'est plus un héros vengeur, c'est un héros justicier. C'est pas moins intéressant, mais c'est une génération différente, malgré tout. Le héros vengeur, héros justicier, ah, bien sûr, un justicier peut être un vengeur, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Malgré tout, les 4 mentions successives de vengeance ont disparu, la revanche est beaucoup moins placée au centre, elle n'est plus à la fin du roman. Ce qui est placé à la fin du roman, c'est « La France ne menace personne et ne demande à ses voisins que le respect de sa liberté et de ses droits. C'est pour se défendre et non attaquer qu'elle a reconstitué son armée et qu'elle en a fait une armée vraiment nationale composée de tous les citoyens. Personne de nous, pourtant, n'a oublié que plus de 1500 000 hommes, qui étaient de bons Français, ont été obligés de devenir Allemands en 71 et que nous gardons un souvenir fidèle et profond à nos frères exilés de la patrie. C'est pourquoi l'Allemagne qui nous a vaincus et qui a abusé de sa victoire s'est alliée contre nous avec l'Autriche et l'Italie, mais soutenue par des amitiés solides comme celle de la Russie, notre pays n'a rien à craindre de ses ennemis. Il a pour lui la justice et peut attendre l'avenir avec calme. Ce calme, cette sérénité face à l'ennemi, l'Allemagne est toujours une ennemie, c'est clair et net, hein, n'est plus présentée sous la vengeance, mais la ferme sérénité de ceux qui ont le droit et la justice pour eux. Le roman fait de l'écolier un petit héros justicier possible. Ce qui subsiste en 1913, dernière date pour cette première phase, parce que je vais laisser du temps à mes camarades. Ici, l'enchantement du roman patriotique n'est pas rompu, mais la génération 1905, repérée par Ozouf, est passée par là, hein, malgré tout. C'est-à-dire que le patriotisme et la critique de la violence guerrière gratuite sont liées. Et les valeurs, on parlait d'humanisme tout à l'heure, là il faut l'historiciser. La mise en place de l'humanité comme valeur dans laquelle justement la France tient un rôle de phare est exaltée à la veille de la guerre de 14, beaucoup plus fortement que dans les générations précédentes encore, dans les petits, la vie, et pour la fin de l'histoire. Ce qui se reflète aussi, par exemple, dans le dictionnaire de Buisson, en 1911, il y a une nouvelle parution. On laisse l'intégralité du premier texte de la vie, avec le final dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on n'abandonne pas cette idée qu'on perd son temps si on ne fait pas de l'enfant, hein, un soldat potentiel, mais on y ajoute des éléments. Donc ça fonctionne plus par, j'allais dire, comme sous l'Ancien Régime, une sorte de stratification, une superposition, plutôt qu'une remise en cause. Le roman national perdure, et son enchantement, je veux dire, pour les élèves perdure, c'est la même façon d'enseigner, avec une insistance encore plus forte, parce que là, dans les générations des manuels des années 1910, l'enseignement par l'image est encore plus insistant. C'est-à-dire, il y a toute une réflexion de Lavis sur le fait que, pour les enfants en particulier petits, c'est par des scènes qu'ils vont s'approprier, des scènes historiques qui vont s'approprier cette histoire commune, dans laquelle ils sont les héros. Ils peuvent devenir les héros. Et on a toute une série de vignettes où on voit des enfants jouant ceci, jouant cela, dans telle ou telle période. Et on les fait se plonger dans la période, on les met de façon très consciente. Pourtant, c'est une période de remise en cause par les syndicalistes de cet enseignement de l'histoire. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure en intervention, les syndicalistes sont peu nombreux à cette époque-là, 1 sur 40. Ce sont les amicalistes qui dominent, et les amicalistes sont complètement en phase avec l'histoire à la Lavis. La Première Guerre mondiale va modifier, je vais un peu vite mais c'est légitime, va modifier les choses, ce qui me fait parler moi d'un âge ambivalent du roman endeuillé, et dans lequel la patrie, me semble-t-il, est progressivement désenchantée. Il y a un processus, de mon point de vue, de transfert de sacralité qui s'opère de la patrie vers la paix, vers la SDN. Et la nouvelle fin de l'histoire va devenir la SDN. Sauf que ça tient pas. C'est-à-dire que le réenchantement par la paix, par l'humanité, par la SDN, en 33, ça tient plus. Ou mal. Et c'est ce qui... j'ai parlé dans d'autres interventions de l'étrange défaite de la patrie. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la patrie reste le cadre de l'enseignement. Si on veut prendre une image cinématographique, le cadrage ne bouge pas. Mais la profondeur de champ est délicate. L'horizon patriotique pose problème. Il pose problème parce que il faut intégrer à cet horizon patriotique la mort de masse et l'explication de la mort de masse et devenir un petit héros qui fait comme ses pères. En fait, on a un poids de la mémoire extrêmement fort sur les jeunes écoliers et sur les maîtres. Et il faut aussi intégrer l'idée que le dépassement du roman national de la France qui était tout à fait possible, la France phare de l'humanité accomplissant la SDN, il n'y a rien d'incompatible. Sauf que la SDN, ça marche pas, et que dès le milieu des années 30, on le sait. Alors, est-ce que ça se reflète dans les manuels? Oui. Avec cette particularité qui est que Lavis meurt en 1922, et que c'est Pierre Connard, C-O-N-A-R-D, qui poursuit son œuvre. Alors évidemment, on a gardé la marque Lavis, comme direction de collection, et qui rédige une série de manuels qui sont des manuels, on va le voir, qui cherchent à rester en phase. En septembre 19, la première et la dernière intervention d'ailleurs de Lavis dans ces manuels, c'est une réflexion générale, ça s'appelle « Élèves de nos écoles », et le ton donne bien ce qu'est Lavis jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire un patriote avant tout. Et là, en septembre 19, il y a l'accomplissement de la victoire tant attendue. La guerre que je viens de vous raconter est un des plus grands événements de l'histoire universelle. L'Allemagne, orgueilleuse et rapace, on est en septembre 19, bien sûr. L'Allemagne orgueilleuse et rapace prétendait dominer le monde pour l'exploiter. De grands peuples libres se sont alliés pour défendre la liberté du monde. Et l'envoi final. Mes enfants, moi qui vous parle et qui suis ému en vous parlant, puisque vous êtes l'avenir de la patrie, je suis un vieillard. Dans quelques semaines, j'atteindrai ma 77e année. Et ça, c'est un ton de Lavis constant. Dès avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il s'adresse aux élèves, il est tout le temps dans ce rapport du grand-père, de l'ancien, qui transmet quelque chose par le cœur, par la passion, par l'émotion, par l'affect. L'histoire de France Lavis, contrairement à l'histoire des méthodiques, qu'il sait être quand il dirige la grande histoire, dans la petite histoire, il est double Lavis, vraiment. Il l'assume complètement. Enfin, il l'assume. Il le revendique dans ses textes. Pendant près de 50 ans, depuis le désastreux traité de Francfort, j'ai vécu dans une France... Alors, écoutez la musique, parce que il y a des gens qui sont formés par ces manuels Lavis et qui réutiliseront ce genre de scansions. J'ai vécu dans une France vaincue, démembrée, humiliée. J'ai souffert de la défaite, du démembrement, de l'humiliation. Hein, c'est... J'ai vu, parce que la France était vaincue, l'Allemagne se croyait tout permis. Son orgueil et ses ambitions menaçaient le genre humain. Mais sans désirer la guerre, j'ai toujours espéré qu'un jour viendrait où la France prendrait sa juste revanche et où l'humanité, grâce à elle, assurerait sa liberté et sa dignité. Car France et humanité ne sont pas deux mots qui s'opposent l'un à l'autre. Ils sont conjoints et inséparables. Notre patrie est la plus humaine des patries. Et ça, ça ne va pas tenir. C'est-à-dire que c'est dit, mais au fur et à mesure de l'entre-deux-guerres, ça ne tient plus. Ça ne tient plus d'abord parce que les remises en cause du Lavis sont absolument frontales de la part des enseignants, de la part des syndicalistes, mais pas que. Le petit Lavis fait figure de nationaliste chauvin. Ce sont le vocabulaire de l'époque. Il faut donc l'expurger. Et c'est ce qui est fait. Ce qui est fait. La dernière leçon qui est désormais la guerre. Désormais, le roman national se finit par la Grande Guerre et la SDN. Auparavant, il se finissait par l'œuvre de la République et Pasteur, etc. Là, il se finit par la Grande Guerre. Ça change beaucoup de choses dans la téléologie de l'enseignement. Quand la fin dernière devient d'expliciter la mort de masse et de lui fournir une solution qui est très très bien exprimée d'ailleurs dans tous les manuels de l'époque. Je présente ici celui, vous êtes très très loin, je pourrais vous faire des tirages de tous ces documents si vous le souhaitez, vous pouvez s'en servir, j'en ai amené plusieurs. Présenté dans un autre manuel très très, le Hachette qui est le plus diffusé à l'époque, on voit bien une espèce de construction de temple symbolique avec ici les morts et là la paix. Hein, ce qui permet d'intégrer ce nouveau... Cette nouvelle réalité de mort de masse, c'est l'horizon de la paix. Alors, ça marche moins bien et on change les leçons sur la guerre. Et surtout, on change les leçons sur la guerre. Après la guerre, au lieu de devenir ce jour où on a vu la vengeance s'opérer, on en retient un jour où, effectivement, on va déboucher vers la paix. Ainsi, la paix de Versailles, ça c'est le Lavis de 1922, paix de justice est aussi une paix d'humanité. Elle promet aux hommes qui, depuis des milliers de siècles, ont tant souffert du fléau de la guerre, un avenir de travail dans la paix. Puisse la Grande Guerre, d'où la France et les Alliés sont sortis vainqueurs, avoir été la dernière des guerres. La dernière des leçons, c'est la guerre comme dernière des guerres. Ça réinstaure un enchantement cohérent. Pour l'instant, on est en 22. Et cet enseignement des années 20, briandiste, de 22-23, les programmes changent en 23, justement, la pie résiste un peu, le patriotisme de la pie est un patriotisme d'avant 14, il est à ce moment-là le directeur du primaire au ministère, mais le patriotisme est désormais une valeur structurante, mais qui n'est plus la valeur au-dessus des autres. C'est ça la différence, c'est ce que je veux dire par des enchantements. Le cadre et le cadrage restent la patrie, la profondeur de champ, ça n'est plus la patrie au-dessus de tout. Pendant cette période, il y aura des réenchantements, d'accord ? Mais il y a bien une période de déphasage ou de désenchantement. Et le drame de cette période, ce sont les contretemps. C'est-à-dire que l'entre-deux-guerres... il me reste quand même 5 minutes, tant mieux, je vais finir avant. L'entre-deux-guerres propose un contretemps qui va se révéler extrêmement difficile à vivre pour les hommes qui portaient l'idéal de paix et d'humanité. C'est qu'effectivement... À partir de 33, 34, 35, soit on devient pacifiste intégral en choisissant de penser on ne peut pas sortir de l'enchantement. Les pacifistes intégraux issus de cette génération, ce sont des gens qui ne veulent pas se désenchanter de la paix. Ce qui est d'ailleurs un effort toujours extrêmement difficile à nourrir. Alors que, de notre côté, il y a ceux qui prennent en compte cet élément-là. Alors ça donne en 1939 ce final du Lavis, qui est ambivalent au moins, double. D'une part, la Société des Nations, qui est toujours la dernière leçon, jusqu'en 39. Compris, c'est la Société des Nations la dernière leçon. La guerre avait laissé au peuple civilisé une grande horreur de la guerre. Elle avait fait comprendre partout qu'il faut conserver la paix comme le plus grand des biens. C'est le briandisme. Hein. Beaucoup d'hommes désirent encore éviter le retour de telles catastrophes et maintenir la paix entre les peuples. Ils sont pacifistes. Or, pour rendre les guerres inutiles, le traité de Versailles, on l'a vu, a confié à la Société des Nations la protection du territoire et de l'indépendance de chaque État. C'est le début classique depuis les années 20, mais le final complet s'appelle le retour à la paix armée. Mais depuis 1933, l'horizon s'est de nouveau assombri. L'horizon. C'est ce problème de profondeur de champ et d'horizon qui, de mon point de vue, est absolument essentiel pour comprendre ce que c'est qu'un roman national et comment il se déploie. L'horizon s'est de nouveau assombri. À l'exemple de l'Italie, l'Allemagne est alors devenue un État dictatorial. Elle a commencé de formidables armements, déclaré nul le traité de Versailles, traité avec dédain la Société des Nations. Son chef décide seul au nom du peuple qu'il gouverne. Dès 1936, l'Italie a envahi et annexé l'Éthiopie, État africain membre de la Société des Nations. En 1938, l'Allemagne a envahi et annexé l'Autriche, puis menacé d'invasion la Tchécoslovaquie et de concert avec la Hongrie et la Pologne. Le pays menacé n'a échappé à une invasion armée qu'en se laissant enlever des territoires. Une nouvelle guerre mondiale a été évitée à la dernière minute, mais la raison du plus fort l'a emporté. On est juste après Munich, on est dans un livre d'histoire primaire, c'est un livre de CM, hein, de cours moyen. Donc, et vous avez jusqu'au le temps le plus présent qui est décrit et placé à la fin. Hein. Comme avant 1914, les peuples inquiets vivent sous le régime de la paix armée, puissent les événements ne pas justifier leurs inquiétudes. Je parle de désenchantement, on est en plein dans cette thématique-là, et effectivement, c'est par là que se conclut, à ce moment-là, la dernière leçon. Moi, il me reste à conclure mon intervention, et à parler, j'avais parlé tout à l'heure, j'ai commencé avec Midi Olympique, je vais finir avec le cadrage et le débordement du roman patriotique, parce que prendre les récits par la fin, ça permet, je crois, de bien saisir les tensions téléologiques, leurs impasses et surtout leurs déphasages. La théologie du roman sacré de la patrie dans le Petit Lavis souffre de la Grande Guerre et l'histoire nationale dans les Petits Lavis, on la voit petit à petit se désacraliser pour sa fin et ses fins dernières. Certes, la leçon inaugurale sur les Gaulois, civilisés par Rome, hein, on commence toujours par le fait que les Gaulois sont des sacrificateurs humains, hein, malgré tout, hein, ça va perdurer, ou les leçons sur la construction de l'État-nation dès l'Ancien Régime et la mise en cohérence du temps de l'Ancien Régime avec le temps de la République, tout ça subsiste. Ça ne change pas. Mais désormais, ça n'est plus qu'un cadre structuré qui ne donne plus les clés de la fin de l'histoire. Et, très important, on parlait tout à l'heure de se demander le jeu entre les manuels et ce qui se fait dans les classes, très très important, qui me semble, alors pour nous, praticiens, vous savez combien c'est important, l'école primaire, c'est que les exemples de héros patriotiques disparaissent des leçons de français à partir de la guerre de 14-18. C'est-à-dire que l'histoire est ramenée à elle. Et là où vous aviez, par exemple, Vercingétorix, la description de l'image de Vercingétorix rendant ses armes à César dans un manuel Nathan de 1913, le même manuel Nathan de 1925 a supprimé cet exercice de rédaction. C'était l'exercice de rédaction type sur gravure. Dans les années 20 et 30, les manuels du primaire domestiquent l'enseignement du français. Et lui enlève sa caractéristique de roman national. C'est-à-dire que le roman national, historique, épique, etc., disparaît de l'enseignement du français. Et ça, c'est aussi, c'était une revendication des enseignants. Très forte, de dire, il ne faut pas bourrer le crâne des élèves avec des exemples de héros guerriers. Quand on fait du français, on fait du français. On fait pas. Et on ne diffuse. Alors que nous savons tous que c'est lorsque se diffuse dans toutes les matières, un enseignement et des valeurs qu'il est efficace. Autrement dit, il faut faire l'éducation civique partout et pas forcément dans une seule matière. C'est tout un message. C'est là où elle sera efficace. Si vous l'isolez comme matière à part, vous la déconstruisez de l'adhésion globale. Et ça, pour l'enseignement patriotique, là, le désenchantement est extrêmement fort. Il est beaucoup plus repérable encore que dans le Petit Lavis. Quand vous voyez disparaître l'histoire de France, du français, vous savez qu'il se passe quelque chose de fort, hein, y compris des exercices d'arithmétique. Alors, je dis pas que ce désenchantement est définitif, loin de là. Il y a eu des réenchantements. En particulier, la Seconde Guerre mondiale a opéré un type de réenchantement. Je ne dis pas qu'il est vrai dans tous les champs. Par exemple, le roman de l'histoire coloniale reste vrai pendant cette période, et ça, il faut le souligner. Il y a même des notations du Petit Lavis sur le fait de dire que, heureusement qu'on a pris à l'Allemagne ses colonies où les indigènes étaient traités de façon barbare, alors que nous savons les traiter de façon douce. C'est écrit tel quel, jusqu'à 39 y compris. Il y a cette différence entre l'occupation allemande, enfin l'occupation, entre la façon allemande de traiter les colonies et la façon française. Mais donc, la patrie n'est plus l'horizon, plus la profondeur de champ, et le désenchantement est d'autant plus violent qu'il est double. C'est d'abord la patrie et puis la paix qui sont désenchantés dans la période. Et ça, c'est redoutable, parce que la paix, c'était un prolongement naturel de la France, patrie de l'humanité. Et la SDN, les brillandistes, ils croient très très fort, parce que justement, il permet la cohérence du roman patriotique républicain avec l'histoire contemporaine. Or, ce fait que la SDN ne fonctionne pas, c'est quelque chose qu'on peut trouver en parallèle avec ce que dit Pierre Brossolette à son appel au nez au moins de 30 ans aujourd'hui. La SDN est morte, l'Union européenne est une dérision et le désarmement est une blague. C'est en 1933 que c'est écrit et effectivement je crois que ça peut servir de fin potentielle. Maintenant je vais répondre un petit peu aux questions. Est-ce qu'il peut, ça c'est pour nous enseignants et pour les gens qui rédigent ou qui dirigent des manuels scolaires, peut-il y avoir un roman historique national ou européen qui soit pas un conte de fées? Est-ce qu'on peut? C'est une question que je me pose moi depuis quelque temps. Est-ce que c'est rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce qu'on peut être des seniors boss actualisés ou est-ce qu'il faut être des lavis conscients? Mais je crois que c'est une question qui n'est pas. Ça vaut pour la rédaction des programmes. Ça vaut pour. C'est-à-dire que il faut que ça soit un roman vrai. On est complètement d'accord. Sinon, nous ne sommes pas des historiens. Et en même temps, est-ce qu'on peut enseigner sans inscrire les enfants dans une histoire d'identité, une histoire d'identité. Moi, qui soit un conte de fées conscient. Est-ce qu'il peut y avoir un conte de fées? C'est nos contradictions actuelles. Mémoire, histoire, enseignement. On est. Comment faire que l'enfant s'identifie comme héros de roman si on doit garder ça? Si on l'abandonne, quelle perspective on s'offre pour être en phase avec ce que nous souhaitons être, une identité nationale à la fois plurielle et collective? Merci.